Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Noémie Grunenwald à l'occasion de la parution de ses traductions en féministe des textes de Dorothy Allison, Trash, Vilaines histoires et filles coriaces, édité chez Cambourakis. C'est parti! Bonsoir Noémie.
Bonsoir.
Aujourd'hui, on fait un crossover entre deux maisons d'édition, puisqu'on va faire se rencontrer ton livre « Sur les bouts de la langue, traduire en féministe à la contre-allée » avec tes traductions des textes de Dorothy Allison chez Cambourakis dans la collection Sorcière. C'est un petit peu une soirée magique.
C'est ça.
Comme je le disais, on fait se rencontrer deux facettes de ton écriture, donc celle où tu t'exprimes en tant que traductrice et où tu nous expliques ton parcours, le comment en fait on est venu à traduire en autodidacte, comment on s'ajuste, comment on découvre des textes, comment on a envie d'en faire son métier, etc. Et de l'autre côté, on l'a en pratique puisque tu plonges dans les œuvres de Dorothy Allison et ça a dû être un sacré plongeon. On parle d'une aventure là.
Ouais, c'est de l'engagement pendant quelques temps, émotionnel et en temps.
Trash, Vilaines histoires et filles coriaces vient de paraître. Et ma première question, comment as-tu rencontré Dorothy Allison?
Moi, je l'ai connue, je pense, il y a une quinzaine d'années, par son recueil Peau, qui maintenant est édité, a été réédité chez Cambourakis aussi dans la collection Sorcière. C'était un des premiers titres de la collection. Et avant ça, il avait été édité une première fois en version abrégée chez Ballant. C'était un des deux premiers titres de la collection Le Rayon Gay de Guillaume Dustan chez Ballant en 99, je crois. Et du coup, moi, j'ai découvert ce livre-là. C'était le moment où, voilà, Ballant, c'était déjà, enfin, Le Rayon Gay, c'était déjà arrêté. On trouvait plus. C'était un peu devenu un livre introuvable. On trouvait que d'occasion à des prix prohibitifs. Mais bon, j'avais fini par le trouver. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Dorothy Allison. C'était avec ce recueil de Peau, qui est un peu mon livre de chevet au fur et à mesure des années. Et c'est assez rigolo parce que je le relis régulièrement et en fait, je me rends compte que c'est jamais la même chose que j'y trouve. Je sais que la première fois que je l'ai lu, c'était beaucoup les questions de classe qui m'avaient beaucoup parlé. La deuxième fois, ça m'avait plus touchée sur le militantisme féministe, la vie collective qu'elle décrit dans des groupes de militants ou dans des maisons collectives. Quelques années après, quand je l'ai relu, c'était plus ces textes où elle parle de sexe qui m'ont parlé, ou pareil que j'avais pas forcément relevé avant. Là, la dernière fois, ça fait 2-3 ans que je l'ai pas lu, mais la dernière fois, c'était tout son travail sur la littérature. Parce qu'elle a aussi, enfin, le sous-titre du livre, je sais plus, c'est à propos de classe, de sexe et de littérature, je crois.
C'est ça.
Et pareil, au tout début, moi, il y a 15 ans, on me parlait de littérature, bon, c'était pas forcément un sujet qui me, enfin, en tout cas, en tant que tel, dans lequel je me reconnaissais forcément. Et là, la dernière fois que je l'ai lu, je me dis, mais en fait, c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte sur la littérature en général, sur le racontage d'histoire. Et voilà, du coup, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai découverte. Et il y a quelques années, justement, c'était un tout petit peu avant que Isabelle Cambourakis lance la collection Sorcière. C'est là que je me suis rendu compte que ce recueil Peau, qui avait édité chez Ballant une quinzaine d'années plus tôt, du coup, n'était pas un recueil intégral, qu'il y avait des textes qui avaient été expurgés. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, ben, à ce moment-là, je faisais des brochures, quoi, du coup, des brochures sur Internet. Et je m'étais dit, bon, ben, je vais trouver les textes qui manquent et puis je vais les traduire. Et au même moment, j'ai rencontré Isabelle Cambourakis qui me disait, je suis en train de travailler sur la réédition, on a rajouté les textes qui manquaient, la traduction est quasi finie et tout. Et du coup, bon, ben, ça s'est pas fait là-dessus, mais c'est à ce moment-là qu'on a discuté de traduire les deux-là, du coup, 2 ou 3 choses dont je suis sûre, et puis Trash. Et bon, là, c'était en 2015, du coup, ça a mis un peu de temps à se faire. Mais voilà, c'était à la fois la rencontre avec Isabelle qui a rendu ça possible, et un peu ma frustration de ne pas avoir pu travailler sur les textes qui manquaient de Peau, qui faisait que j'avais très très envie de traduire ces deux-là.
Mais de ce fait, tu avais une lecture déjà aussi en anglais de l'œuvre de Dorothy Allison. Enfin, quand tu parles de Poe, tu avais déjà, en fait, cette vision en double, en fait, entre le texte original et les traductions proposées en France, où c'est en constatant qu'il manquait des textes que donc tu allais les lire en anglais en te disant, enfin, en voulant... réparer en fait le manque. C'est plutôt ce côté-là de l'histoire.
Ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça qui s'est passé. Au début, je l'avais pas lu en anglais spécialement. C'est quand j'ai découvert qu'il manquait des textes que je l'ai lu en anglais et aussi parce que voilà, dans la première traduction qui a été faite chez Balance, c'était en 99. Du coup, bah, il y a plein de trucs de vocabulaire qui ont évolué depuis et donc j'avais envie de savoir comment certaines choses avaient été dites au départ. Et du coup, oui, c'est comme ça que j'ai commencé à la lire en anglais. C'est comme ça que j'ai commencé c'est à peu près à ce moment-là que j'ai lu Trash et deux ou trois choses dont je suis sûre en anglais, quoi, du coup, vers 2014 à peu près.
Et la lecture en anglais, parce que là, évidemment, comme on l'a déjà un petit peu dit, on est sur un principe de traduction féministe, traduire en féministe, traduire des textes féministes. Mais de ce fait, est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà, en fait, dans ton œil de lectrice, en fait, une attention particulière sur ce texte anglais qui est d'une langue beaucoup moins genrée que le français. Et donc, déjà, d'avoir, en fait, ce regard, comme ça, de se dire, en effet, la traduction est lointaine, ça fait un moment, on ne dirait plus les choses de la même manière. Mais est-ce que tu avais déjà eu une appétence à ce moment-là pour essayer comme ça de déstructurer les textes pour vraiment leur donner le plus de sens possible ?
Je dirais que c'était le début. Enfin, c'était pas forcément conscient. Moi, j'ai pris conscience de ces dimensions de traduction féministe quand on m'a demandé d'en parler, en fait. C'était au tout début quand j'ai travaillé avec la Contralée, avec le festival d'un pays l'autre, où en fait c'était Anna Rizzello qui organisait la programmation de ce festival et qui m'avait invitée pour une autre traduction d'ailleurs, et qui du coup m'a fait parler de comment était faite la traduction. Et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, vraiment de concrètement qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je pouvais lire en termes de traduction. Et avant ça, c'était, on va dire, plus intuitif et moins formalisé ou verbalisé plutôt.
Ce moment, en fait, où tu formes ton œil et ton esprit à vraiment aller chercher toutes ces nuances, parce qu'on là on est en train vraiment de parler de nuances, et je me dis, ça a dû être une période quand même assez incroyable pour toi de te dire wow, en fait, il y a tellement de possibilités là. Je sais pas encore comment on va faire, mais il faut qu'on voit toute l'architecture du texte possible qui dépasse ce qu'on aurait lu, nous, dans la traduction d'origine, par exemple.
Oui, bah après, moi, c'était vraiment... je baignais vraiment dans un univers militant à ce moment-là, avec beaucoup de fanzines, de brochures, et ça, c'est des pratiques qui sont assez anciennes dans les brochures. On va dire que on peut le dater, en tout cas, clairement, à partir des années 90. Avant, pas tant. Même dans les textes du MLF et tout, c'est pas forcément présent de cette manière-là. Mais voilà, du coup, moi, je baignais dans tout cet univers-là. Et après, ce qui est clair, c'est que dans l'édition, on va dire, professionnelle, ou voilà, dans les livres qu'on trouve en librairie, c'était quasi inexistant. Mais après, voilà, moi, c'était cette démarche-là, c'était aussi les premières traductions que j'ai faites, c'était, voilà, des articles, des pareil, dans des fanzines, des brochures, où, du coup, tout est possible, en fait. Il y a personne qui vérifie que c'est bien français, académique, comme il faut, ou quoi. Et du coup, ben, c'était l'intérêt et la magie qui rendait ça possible, en fait. Voilà, vu que tu fais tout, quoi. Tu lis le texte, tu le traduis, tu le mets en page, et hop, tu le mets sur Internet en brochure, et tu l'imprimes à la photocopie. Enfin, voilà, bref, quoi, faire une brochure. Du coup, moi, c'est vrai que je suis plus rentrée par un angle militant, on va dire, que linguistique. Et en fait, ces questions-là m'ont amenée à la traduction plus que l'inverse, en fait. Et c'était parce que j'avais envie qu'il y ait des textes qui me semblaient importants, qui soient publiés, et que j'ai commencé à faire de la traduction.
Oui, c'est ça. Et d'où, en fait, la position hyper politique que tu as, en fait, dans ton métier, et d'avoir aussi peut-être mis cette autre donnée, en fait, dans les choix que tu faisais, dans maintenant ton parcours professionnel, c'est de dire ben le fait, enfin il faut qu'on puisse avoir accès en fait à ces textes-là, où on sait très bien qu'en France on a quand même une difficulté à aller vers les langues étrangères assez certaines. Et donc les traductions, en plus de textes qui, à une certaine époque, alors je me dis même encore maintenant, peuvent être considérés comme des textes de niche, en fait, de se dire, bon ben là, j'ai une compétence que je suis en train de construire et je vais pouvoir donner de la visibilité à des textes qui sont restés hors de France. C'est un endroit aussi exaltant. De ce fait, est-ce que t'as pas eu envie de noter absolument tous les noms d'autrices ou d'auteurs et de dire, bon, allez, on les fait les uns après les autres et c'est parti, on va donner... Parce que, après, ça prend énormément de temps, une traduction, mais en même temps, il devait y avoir quelque chose de très enthousiasmant, en fait, à se dire, je suis une enquêtrice, ou même quelque chose de l'ordre de la découverte, quoi. Je fais découvrir aussi ces textes-là.
Ah bah si, clairement, c'est pour ça que je fais de l'édition maintenant. C'est pour tous ces trucs que j'ai vus il y a des années, pour pouvoir les publier... voilà, c'est pas pour faire un instant pub, hein, mais voilà, là, avec Hystérique Associée, on publie John Nessel, par exemple, cette année. Ça fait 15 ans que j'ai envie de publier John Nessel et que personne s'y est intéressé, et que bon, voilà, maintenant je peux le faire, alors je le fais. À l'époque, c'était pas possible, alors je l'ai pas fait. Mais après, ça, c'est pas spécifique à mon parcours, c'est quelque chose qu'on, pareil, je le savais pas à l'époque, hein, c'est en écrivant le livre, en travaillant sur le sujet que je me suis rendu compte, mais c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu, dans les mouvements militants en général et dans le milieu féministe en particulier, beaucoup de textes qui ont été traduits à partir des années déjà 60 en fait, et ensuite 70-80, c'est beaucoup de militantes qui ont traduit, parfois collectivement, comme on l'a fait avec Stone Butch Blues, mais il y a eu énormément de travail qui a été fait là-dessus. Par des gens dont c'était pas spécialement le métier, qui étaient dans une démarche de « ok, ce texte, il faut le faire connaître », et où il y avait des maisons d'édition qui accompagnaient qui travaillaient dans la même idée, quoi.
Là où t'as une spécificité quand même, si tu peux me le permettre, c'est que tu t'attaques quand même assez souvent à des textes qui sont, en fait, dans cette inclusivité-là, en tout cas dans une langue qui demande à être adaptée par rapport au français, aux possibilités du français. Je me souviens d'avoir entendu avec Stone Butch Blues de l'énorme travail, en fait, que ça a demandé du nombre de personnes pour vraiment ouvrir toutes les possibilités. Ici, avec Dorothy Allison, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, en fait, tu notes, en fait, tu indiques, alors je suppose que c'est un texte que vous avez travaillé avec l'éditrice, mais une sorte de guide, en fait, de dire, bon, ben voilà, ce que vous allez lire, en fait, on l'a travaillé comme ça, on a décidé ce genre de choses, et j'ai trouvé comme grille de lecture que c'était tellement clair qu'en fait, on n'y revient pas. Enfin, moi, je l'ai lu, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu l'impression vraiment que mon esprit s'était mis dans l'ordre, et qu'après, dans ma lecture, c'était hyper fluide. Cette feuille de route, là, de lecture, ça a été un travail assez consistant, ou directement, comme c'était clair dans tes traductions, c'est venu aussi clairement expliquer...
Bah, un peu les deux. Alors, c'est quelque chose que vraiment on a travaillé, ouais, avec Isabelle Cambourakis et Olivier, son compagnon, qui travaille beaucoup sur les traductions aussi de la collection. Cette idée de notes de traduction au début, ou même dans les livres de la collection, il y a aussi des notes d'écriture, enfin, pas forcément que des notes de traduction, mais les autrices qui annoncent à l'avance comment elles vont écrire. Et ça, c'est une note qui se retrouve à chaque fois et qui est retravaillée. Et après, c'est sûr que moi, mais au fur et à mesure de mes traductions avec dans cette collection, bah, cette note, elle s'allonge, elle se complexifie et elle change aussi, parce que bah, je fais pas forcément les mêmes choses maintenant que il y a quelques années. Mais après, voilà, cette volonté de clarté, je pense que là, c'est quelque chose où il y a une rencontre de démarches militantes et aussi, enfin, oui, démarches militantes au sens premier du terme, qui est d'expliquer et de pas forcément de convaincre, mais en tout cas de partager des prises de position, mais en les rendant claires et accessibles au plus grand nombre, en tout cas. Et c'est pour ça que ces notes, elles sont assez détaillées, avec des exemples très précis. Et après, non, c'est pas forcément, en général, c'est à la fin qu'on la rédige. Parce que ça, je sais pas encore à quoi je vais être confrontée dans le texte. Il y a des choses qui arrivent aussi au fur et à mesure auxquelles moi j'avais jamais pensé. Par exemple, dans le deux ou trois choses dont je suis sûre, ce qui est apparu, c'est le quelque chose. Alors, c'est un truc que je n'y avais jamais pensé avant. Par exemple, je sais pas, quelque chose de beau. bah oui, on dit quelque chose de beau. Et en fait, en traduisant et tout, je me disais, mais c'est quand même bizarre, parce que quelque chose, on dit chose, chose, c'est féminin. Du coup, pourquoi on dit pas quelque chose de belle? Pourquoi est-ce que l'abstrait, enfin, le non identifié, ce serait forcément au masculin? Et pareil, là, on en a parlé, j'ai proposé ça, Isabelle a dit, bon, ok, mais il faut l'expliquer, parce que sinon, personne va comprendre, tout le monde va... Et du coup, bon, bah, on a travaillé un petit paragraphe pour expliquer ça. Et alors pour l'instant je le fais pas encore dans toutes mes traductions ça parce que bah oui c'est pareil c'est une discussion avec l'éditrice ou l'éditeur mais en tout cas là on l'a refait dans Trash et moi je suis hyper contente de cette idée je trouve c'est assez parlant et puis oui comme tu dis moi c'est la première fois qu'on me dit c'est que oui au premier coup tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un peu bizarre mais en fait au bout de la deuxième fois c'est bon ça passe tout seul quoi c'est comme le quelqu'un quelqu'une. Bah oui, c'est pas hyper courant, mais pareil, ouais, tu l'as lu deux fois, c'est bon, c'est acquis, on passe à la suite, quoi.
Mais je me souviens, dans ma lecture de Trash, puisque j'avais dans l'idée la rencontre, je m'étais dit, mais ce serait bien que je trouve un petit passage où on montre un petit peu, pour l'exemple, en fait. Et sauf que ma lecture a tellement été fluide qu'en fait, je n'ai pas eu de ce moment où j'ai fait, ah oui, voilà quelque chose. Je l'ai pas vu en fait et donc c'est à la fin où je me suis dit mais waouh en fait c'est tellement cette fluidité là est tellement facile une fois qu'on a acquis les codes que tu nous expliques bien bah en fait on n'est pas déplacé dans notre lecture.
J'ai surtout traduit des essais avant Dorothy Allison en fait et j'avais jamais fait de la je savais pas trop à quoi m'attendre donc qu'est-ce que ça allait donner en littérature parce que bah oui c'est quand même pas c'est pas les mêmes Alors, c'est pas pour dire que les essais sont mal écrits, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais comment dire, le style d'écriture, il y a un peu plus de marge de manœuvre, on va dire, en traduction quand on traduit un essai, parce que, bah voilà, si y a un mot qui a une sonorité qui est pas hyper sexy, bon, bah c'est pas grave, c'est le mot, il dit ce qu'il veut dire, on le met, et puis voilà, la phrase, elle aura un peu, je sais pas, elle aura trop de F dans la phrase, ça accrochera un peu à la lecture, mais c'est pas grave. En littérature, c'est plus compliqué de faire ça parce que bah oui, il y a tout un travail de poétique en fait. Et du coup, je savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais peur que, même si bon, j'étais prête à prendre le risque, quoi, mais j'avais peur que ces partis pris de traduction, y compris à certains moments, alors il y en a pas tant que ça en fait, mais tout ce qui est point médian, par exemple. Que ça accroche un peu sur de la lecture de textes littéraires et en fait effectivement ça passe tout seul quoi.
Ouais, il y a vraiment cette fameuse dimension d'inclure tout le monde qui est visible en fait. Je trouve qu'on se rend pas toujours compte avant d'y être sensibilisé que tout est au masculin. Enfin c'est à partir du moment où on en prend conscience que c'est illisible que là en fait, à plusieurs reprises, j'ai quand même eu cette conscience-là, puisque c'était tout l'objet, en fait, aussi de la rencontre. Traduire en féministe, ça veut dire quoi ? Et je me suis dit, mais oui, en fait, par ces points médians, par les différentes astuces, en fait, que tu mets en place, on voit et on lit tout le monde. Même si Dorothy Allison parle quand même énormément de femmes. Il y a juste un passage dans deux ou trois choses dont je suis sûre où elle parle de ses oncles et des cousins, etc. Et j'ai été surprise. Je me suis dit, ah oui, il y a des hommes dans l'histoire. Mais on a tellement l'impression qu'elle est entourée de femmes et elle ne fait parler que des femmes et que ce soit dans la fiction qu'en fait, on peut vite oublier le masculin aussi dans ses textes. Est-ce que tu as ressenti aussi ça, ce côté très féminin de ce fait de langage et que de ce fait c'était d'autant plus facile que d'aller vers cette langue inclusive.
Bah oui, clairement, et c'est vrai que c'est finalement c'est presque plus facile qu'avec des essais où il y a énormément de montées en généralité dans les propos où du coup bah on est il y a cette idée de généralité et du coup de d'inclusion on va dire que finalement dans la littérature on va beaucoup plus parler de situations, de faits, de personnes en particulier et du coup finalement les situations où on est face à ce genre de problème de ok comment on fait pour inclure tout le monde ben en fait elle se présente beaucoup moins parce que ben oui quand elle parle de ses tantes elle parle de ses tantes quand elle parle de ses oncles elle parle de ses oncles en fait et bon quelquefois elle parle de ses cousins et de ses cousines c'était les parties les plus embêtantes entre guillemets mais oui ça facilite et après ça facilite aussi à un autre niveau qui est après ça je le retrouve pareil dans la plupart de mes traductions qui ben voilà c'est des autrices féministes et ça fait que ben moi la liberté que je peux me donner en traduisant et ben elle est renforcée par le fait que j'ai confiance dans le fait que l'autrice, elle est sensible à ma démarche. Et alors, des fois, c'est explicite parce qu'on en parle avec elle. Des fois, c'est pas explicite parce qu'on en a pas parlé. Mais voilà, il y a au moins une intention qui est commune et qui fait que, bah oui, je vais oser faire des choses parce que je sais que elles écrivent au sein d'un mouvement qui porte politiquement des questions. Et ben moi, je traduis au sein d'un mouvement qui porte politiquement les mêmes questions. Alors oui, on n'a pas forcément les mêmes réponses en termes de langage ou d'écriture, parce que c'est pas les mêmes langues. Mais n'empêche qu'il y a une volonté d'aller dans un sens commun. Et ça, c'est hyper rassurant aussi quand on traduit des autrices comme Dorothy Allison, où on a quand même très peur d'abîmer leurs textes. Et ben on se dit que ok, c'est bon, on peut le faire, quoi.
Et parce que de ce fait, tu as pu avoir un petit peu de contact avec elle. Comment on explique ? Alors, j'imagine, comme tu viens de le dire, que c'est expliquer sa vision militante aussi, dire moi, j'imagine ça comme ça, mais c'est pas une personne qui parle le français. Donc, l'exemple, par exemple, doit être difficile de lui montrer tout ça. Donc, comment concrètement ça se discute, ça, d'essayer de voir. Dans quelle mesure elle est d'accord que son texte soit traduit à ta façon et dans quelle mesure elle comprend ce qui va être mis en place par rapport au français.
Bah alors ça c'est pareil, c'est plus ou moins explicite. Je pense que c'est plus dans les... Moi avec les autrices, j'ai pas de discussion au départ hyper générale. C'est plus au début quand je les contacte, ça avait des questions très précises. Sur telle page, telle ligne, il y a telle situation, je sais pas comment l'interpréter. Ou alors là, tu parles d'une personne qui est ton cousin ou ta cousine. Bah, c'est bizarre pour parler d'une personne d'écrire un truc avec des points médians, quoi. Du coup, je lui demande, bah, c'était un cousin ou c'était une cousine. Et du coup, je vois, en fait, en fonction de ses réponses, à quoi elle est sensible. Et après, c'est pareil, c'est un... De sa part aussi, c'est une... Enfin, après, je peux pas parler en son nom, mais une démarche de confiance. Mm-hmm. Elle sait que tel éditeur ou éditrice qui va la publier travaille dans cette démarche, que va s'entourer de... en l'occurrence, d'une traductrice qui travaille dans la même démarche. Et voilà, elle part du principe qu'elle fait confiance. Et après, moi, j'ai rediscuté avec elle après coup pour autre chose. Un autre projet. Et elle m'a dit texto qu'elle avait fait lire la traduction de deux ou trois choses dont je suis sûre à une amie ou une connaissance à elle qui lui avait dit que c'était bien et que du coup elle me faisait confiance et que du coup elle était ok pour l'autre projet, quoi. Je n'explique pas de manière détaillée ma démarche au départ, en fait. Mais ça, je le fais pas forcément non plus avec les éditeurs ou les éditrices avec lesquels je travaille. Notamment parce qu'aussi, il y a tous ces mythes et ces discussions sur l'écriture inclusive, parce que voilà, tous les 3-4 ans, il y a un académicien qui dit une connerie, quoi. Et du coup, voilà, ça fait, Le Figaro fait des articles, et puis ça devient de nouveau pendant quelques mois un sujet de discussion qui affole les ministres de l'éducation, quoi. Certains éditeurs ou éditrices avec qui j'ai pas travaillé avant, je peux pas forcément savoir à l'avance quel est leur rapport à ça. Et ça m'est arrivé, par exemple, l'an dernier, j'ai travaillé avec une éditrice pour une grande maison d'édition avec qui j'avais jamais travaillé avant. Au tout début, je l'ai juste un peu sondée pour savoir c'était quoi son rapport à ces questions-là. Et en gros, elle disait « Ouais, bon, je pense pas que ça passera, et truc style point médian, mais bon, on verra plus tard et tout. » Je fais « Ok, on verra. » J'ai présenté mon texte. Elle l'a lu, elle a dit « Oh, mais ça passe tout seul, en fait. C'est pas du tout gênant. Moi, je le propose comme ça. » Et puis bon, bah, le texte, il est passé comme ça, quoi. Donc je me dis j'ai assez confiance en fait en comment le texte il va porter ces questions, comment moi je vais réussir à les intégrer dans le texte et comment après on peut en discuter s'il y a des endroits où ça coince. Pour en fait, je préfère présenter le texte dans sa version pas finale mais en tout cas dans son manuscrit version 1, on va dire, quoi, plutôt que d'en parler à l'avance.
Oui, puis de faire peur là où ça. En fait, typiquement, ça a été ok, quoi. On va retourner un petit peu sur Dorothy Allison, parce que vraiment, enfin, ce sont des lectures qui sont pas anodines. Pour avoir, donc il y a plus longtemps Lupo, ensuite deux ou trois choses dont je suis sûre, et maintenant Trash, on est sur un cheminement d'écriture quand même très spécifique. Donc comme tu le disais, avec Trash, on est sur de la fiction, donc un endroit de littérature encore différent. Sur deux ou trois choses dont je suis sûre, c'est du récit. On est vraiment sur elle qui nous raconte son lien, en fait, avec les femmes de sa vie, et notamment sa mère, sa tante, enfin, vraiment le cercle très proche. Là où Poe, on est, même si c'est un mélange de pas mal d'écritures, il y a quelque chose parfois de l'ordre de l'article ou de la une sorte de prise de parole comme ça. Ici, avec Trash, donc elle est dans la fiction. Et en même temps, est-ce qu'elle l'est vraiment ? C'est-à-dire que maintenant, on parle de cette fameuse autofiction, donc où les auteurs et autrices se mettent vraiment limite à nu, en fait, mais il y a des petits détails qui font dire qu'on est dans la fiction. Et ici, donc, il y a deux préfaces à Trash, puisqu'il y a la première qu'elle a faite lors de la première édition, et elle a refait une seconde pour la suivante, et où on voit bien, en fait, que son... L'objet ici, c'est de se raconter, mais de passer par la fiction. Pour quelle raison ? D'abord, j'aimerais bien voir comment toi, en fait, t'as interprété cette façon, en fait, de passer par la fiction pour au final raconter sa vie. Puisqu'il y a beaucoup de choses, une fois qu'on a lu deux ou trois choses dont je suis sûre, où on comprend qu'elles sont aussi dans les nouvelles, on se dit, mais en fait, où elle s'inspire vraiment beaucoup de sa vie et il y a des personnages qui n'existent pas. Et en même temps, ce sont les mêmes prénoms. Enfin, c'est assez confus, parfois, en fait, de démêler le vrai du faux. Mais quel a été, de ce fait, pour toi, ce travail-là de lecture dans la nouvelle, en fait, dans l'objet peut-être un peu aussi politique que peut être cette nouvelle dans l'écriture de Dorothy Allison ?
Bah, moi, là-dessus, j'essaye de faire confiance à l'autrice. Mm-hmm. J'essaye de pas trop chercher justement qu'est-ce qui est de la réalité, qu'est-ce qui est de la fiction. Je me dis, bah, elle écrit de cette manière, du coup, ce qu'effectivement on appellerait de l'autofiction maintenant, c'est pour une raison qui lui est propre, qui moi me regarde pas spécialement en fait. Et du coup, j'ai tendance à, voilà, je lui fais confiance quoi. Après, effectivement, quand on a une vision d'ensemble de son œuvre, bah oui, on voit les choses récurrentes, les thématiques qui reviennent, les noms qui reviennent, mais ça c'est pareil. Des fois, alors là, par exemple, dans Trash, il y a différents récits, et il y en a certains, on lui demande d'où elle vient, elle va répondre de Caroline du Sud, ce qui est effectivement l'endroit d'où vient Dorothy Allison. Il y en a d'autres, elle va répondre de Virginie ou d'un autre endroit, et moi, je trouve que c'est des rappels de fiction, en fait, dire, bah là, en fait, le jeu qui parle, c'est pas Dorothy Allison, en fait, c'est une narratrice, qui a été choisie, qui raconte quelque chose d'un point de vue particulier. Par exemple, il y a une nouvelle où elle raconte, en gros, la nouvelle, c'est une rencontre avec sa tante, la narratrice explique qu'elle peut pas avoir d'enfant, elle explique qu'elle a dit ça à sa mère, et voilà, la nouvelle raconte la réaction de sa mère et tout. Et ça, par exemple, c'est une nouvelle qu'elle a écrite, avant, en l'occurrence, Dorothy Allison ne peut pas avoir d'enfant, biologiquement parlant, quoi. Mais c'est une nouvelle qu'elle a écrite avant de raconter à sa mère. Enfin, avant de le dire à sa mère, par exemple. Donc là, c'est pareil, il y a des éléments de réalité, mais il y a un travail littéraire, et ça, je pense que c'est important de garder en tête avec des autrices comme Dorothy Allison, ou même comme Leslie Feinberg, qui est vraiment dans la même démarche d'autofiction, c'est que c'est un travail littéraire, c'est de l'écriture, c'est de... Elle travaille le style de son récit, c'est pas un témoignage. Et je pense que c'est important de le garder en tête, parce que... Enfin... J'ai pas envie qu'on réduise leur travail littéraire à un témoignage, même si le témoignage, c'est quelque chose d'important et qui a toute sa place dans l'écrit, hein. Je dis pas le contraire, mais juste, voilà, c'est deux choses différentes.
Quand on commence Trash, donc qui porte si bien son nom, et qu'on a cette première nouvelle qui est d'une violence, j'ai dû faire une pause.
Le début est un peu costaud. Ouais, les trois premiers textes sont un peu
hard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après avoir lu en plus ses préfaces, où on sait qu'elle a mis d'elle dedans parce qu'elle nous dit explicitement qu'elle a besoin de la fiction, en fait, on se dit, mais dans quelle mesure est-ce qu'elle va plus loin ? Est-ce qu'elle s'autorise à être encore plus violente que ce qu'elle a vécu ? Parce qu'on se dit, mais c'est tellement horrible, en fait, ce qui se passe, et les morts qui arrivent de manière complètement folle et décalée, et que... Après, c'est peut-être aussi la façon dont, en tant que lectrice, je survis aussi à cette lecture, de me dire, non, mais en fait, c'est beaucoup trop, ça n'existe pas en vrai, c'est pas possible, on met des barrières, quoi. Mais cette question-là de l'hyperviolence, c'est de la violence physique, c'est de la violence sexuelle, c'est du viol, mais de la vulgarité aussi, de la grossièreté, et tout ça, en fait, à travailler pendant longtemps, ça, enfin, comment ça a été, en fait? Enfin, ça va? Enfin, je veux dire, je me dis, quand on plonge dans Dorothy Allison pendant des années, mais je sais pas ce que tu mets à côté de toi pour voir la vie plus belle, mais moi, je trouve qu'il faut quand même beaucoup d'énergie, en fait, pour tenir sur le long terme.
Oui. Ça va, coussi coussa. non, mais oui, non, clairement, c'est hyper dur. C'est pas, enfin, c'est tout l'engagement là de la traduction, hein, où voilà, pendant des semaines, des mois, pour le coutrage, ça m'a pris presque 6 mois de traduction à proprement parler, et ça s'est étalé sur presque 9 mois, parce que j'ai fait une autre traduction au milieu, quoi. Du coup, c'est du quotidien, c'est 10 heures par jour sur le texte. Et c'est pas hyper agréable, hein. Il y a des soirs, t'as envie de parler à personne, de voir personne, de te mettre dans un coin et d'attendre que ça passe, quoi. Après, voilà, je dirais que c'est les mêmes outils qu'elle décrit aussi dans les préfaces, où elle dit, bah, moi, ce qui m'a sauvée, c'est mon sens de l'humour. Mm. Et bah oui, effectivement, c'est hyper drôle, en fait. Alors oui, c'est hyper trash. Mais c'est très très drôle tout ce qu'elle raconte. Enfin, elle a énormément de comique de situation, on pourrait dire, ou de petits mots qui permettent de dédramatiser les choses. Et voilà, moi j'essaye de faire pareil. Ça marche plus ou moins selon les fois, mais c'est vrai que voilà, moi je pense toujours à la. Alors c'est pas de la violence physique directement ou quoi, mais c'est la dernière. Le dernier récit, il est assez long, c'est le plus long du texte, et c'est une trentaine de pages, je crois, dans la version originale, sur le cancer de sa mère qui meurt, et voilà tout ce que ça génère autour, et voilà 30 pages en traduction comme ça, c'est des pages assez fournies, quoi, c'est pas 30 feuillets, c'est à peu près 2 semaines de travail. Oui, pendant 2 semaines de travail, j'étais dans le cancer de sa mère, j'étais dans les cancers que moi j'ai pu connaître dans ma vie. Ou non, c'est pas très drôle, mais c'est beau, mais et puis c'est, après il y a pour le coup, je pense que peut-être à des moments on se retranche dans l'activité de traduction à proprement parler, ou bah oui, même quand elle parle de choses horribles, bah ouais, on est contente parce qu'on arrive à retranscrire cette phrase de telle manière que ça fonctionne, que bah voilà, on arrive à retrouver ce petit passage drôle qu'elle met au milieu, on arrive à le rendre drôle aussi, et du coup bah ça accompagne le texte. Mais non, oui, c'est pas toujours facile, quoi.
Après, heureusement, il y a quelques nouvelles qui sont un peu plus douces, enfin, même si elles restent toujours dans un contexte pas facile. Il y a en effet des moments où l'humour est plus fort. Enfin, je sais plus le nom de celle-là, mais où elle rencontre une jeune fille dans le bus, enfin une de ses copines d'école, qui est apparemment très laide, et où elle va se faire une sorte d'acte militant que de rester avec elle, et toutes les réactions qu'il y a autour de ça. Mais c'est ouais, elle nous surprend quand même, en fait, dans toutes ces nouvelles. Il n'y a pas quelque chose d'un long fleuve de violence, comme on pourrait laisser entendre sur ce que j'ai dit, mais il y a de temps en temps, en fait, des petites nuances, même sur celle du gospel, ou... Enfin, c'est des endroits un petit peu...
Ben, je pense que ça, c'est... Alors, enfin, je pense pas que ce soit propre à Dorothy Allison, hein, mais en tout cas, elle en parle, elle a envie d'écrire des choses réelles. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, c'est l'honnêteté, elle pense qu'un texte vaut la peine d'être écrit il dit une vérité. Et du coup, ça, je trouve qu'elle y arrive très bien, c'est qu'elle dit la vérité. C'est-à-dire que, bah oui, dans la vérité, il y a des choses pas drôles, il y a des choses drôles. Quand on est dans des situations difficiles, bah, ça veut pas dire qu'on passe la journée à pleurer, en fait. On rigole quand même et on fait quand même des trucs chouettes. Et voilà, là, par exemple, dans cette nouvelle sur le gospel avec cette camarade de classe, bah, elle raconte pendant hyper longtemps que quand elle était petite, elle voulait à tout prix devenir chanteuse de gospel. Et voilà, c'est plein de situations drôles parce qu'elle sait pas chanter, elle chante comme une casserole, quoi. Et voilà, c'est ça fait plein de...
Mais c'est la même, en plus.
Oui,
c'est celle-là. Ah, bah voilà. Tu vois, je les ai différenciées alors que c'est la même.
Non, c'est la même. En l'occurrence, celle-là, elle a servi de c'est un chapitre, bon, retravaillé, qui est dans l'histoire de Beaune, son premier roman. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec Trash, c'est que elle a écrit un recueil de poésie avant ça. Ensuite, elle a publié Trash, qui, qu'on pourrait dire, c'est un recueil de nouvelles, hein. Et en fait, elle explique dans des entretiens qu'elle travaille comme ça. Elle écrit d'abord un poème, ensuite elle en fait une nouvelle, ensuite elle en fait une longue nouvelle, un récit, et après, pouf, elle essaie d'en faire un roman. C'est vrai que là, on a parlé des premiers récits qui sont un peu costauds, mais après, voilà, elle parle des relations avec ses tantes, avec ses sœurs, c'est très très beau. Elle parle de cul, elle parle de bouffe, de manière, positive, quoi. C'est vrai. Je sais pas comment dire autrement, quoi. C'est très honnête, c'est très vrai. Et voilà. Après, effectivement, les nouvelles les plus difficiles, elles sont au début. On peut questionner ce choix éditorial qui a été fait au départ. Mais voilà, faut pas s'arrêter aux trois premières. Après, c'est un peu plus léger et un peu plus drôle et...
Bah, c'est-à-dire qu'on a vu le max et après, de ça, on fait, oh, dis donc. Mais en fait, ça peut être plus doux. Il me semble que tu avais envie de nous lire un petit extrait. Ouais. Tu as dit un mot-clé en plus, tu as dit bouffe, est-ce que c'est celui-là que tu choisis?
Ah ouais, bon, je peux lire, il est assez court, je peux lire le petit extrait, le début du chapitre sur la bouffe. Enfin, sur la bouffe et le sexe, en l'occurrence. Mais je crois que la partie que j'ai choisie, elle parle surtout de bouffe. du coup, c'est un chapitre qui s'appelle « Un appétit lesbien ». Des scones au bas-beurre. Je rêve de faire des scones au bas-beurre. Tamiser la farine, la levure et le sel en même temps, doser à l'œil la matière grasse et le bas-beurre et étaler le tout avec les doigts saupoudrés de farine. Des haricots. Je rêve de choisir des haricots, les faire tremper toute la nuit, couper du gras de porc, trancher des oignons, jeter le tout dans une grande marmite en fer et mettre à bouillir pendant des heures, jusqu'à ce que le monde entier sente le sel et la chaleur et la sueur qui s'accumulaient sur le cou de ma maman. Des légumes verts. Des feuilles de moutarde, de choux cavaliers, de navets et de raisins d'Amérique. Impossible d'en trouver où que ce soit dans les magasins du Nord. Au Safeway, quand je tombe sur du chou cavalier surgelé, j'en achète 5 sachets et je les mets de côté. Le fait d'avoir ces paquets emballés dans le congélateur me rassure presque autant que d'avoir de l'argent à la banque. Si je me réveille à cause d'un mauvais rêve, il y aura au moins quelque chose que j'ai envie de manger. Des haricots rouges et du riz, des coups de poulet et des dumplings. Du rôti à la cocotte avec du vinaigre et des clous de girofle plantés dans les oignons. Des galettes de saumon avec de la sauce blanche. Des haricots en purée sur des tortillas chaudes. Du canard sucré avec des cébettes et des crêpes. De l'agneau cuit à l'huile d'olive avec des tranches de citron. Des côtelettes grillées à la poêle et de la sauce aux yeux rouges. Des galettes de patates avec de la compote de pommes. De la polenta recouverte de sauce tomate. Les aliments sont plus que de la nourriture. Ils sont de l'histoire. Je me souviens des femmes à travers ce qu'on a mangé ensemble, ce qu'elles ont sorti du congélateur après qu'on a fait l'amour pendant des heures. Je n'ai eu qu'une seule amante qui ne voulait pas manger du tout. Ça n'a pas duré longtemps entre nous. Le sexe était bon, mais je ne savais pas quoi faire avec elle une fois le sexe terminé. On buvait de l'eau et on se disputait beaucoup.
Merci beaucoup Noémie pour cette discussion.
Ben merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Noémie Grunenwald à l'occasion de la parution de la traduction des textes de Dorothy Allison, Trash, Vilaines Histoires et Filles Coriaces dans la collection Sorcières des éditions Cambourakis.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.